6 juillet 2021, le Canadien de Montréal est toujours vivant. Oui, vous avez bien entendu. Bienvenue à une autre édition du podcast La Relève, Nicolas Cloutier, Martin Thériault et moi-même, Anthony Desauniers, qui sont là pour vous accueillir et pour vous parler des prospects pour la prochaine heure. Messieurs, êtes-vous encore sur le high du match d'hier? Victoire dramatique des Canadiens.
Absolument, absolument. Écoute, cette équipe-là, on dirait, refuse d'abandonner, refuse de tomber. Et moi, j'ai vraiment des flashbacks par rapport à ce qu'on a vu contre les Maple Leafs. C'est comme si tous les astres étaient alignés pour une élimination. Tout se passait pour qu'une élimination survienne. Écoute, la pénalité du capitaine avec des poussières à faire en troisième période. On se dit que cette équipe-là est morte et enterrée. Mais même avec un déficit de 3-0 dans la série, l'équipe trouve le moyen d'aller chercher de la motivation, d'aller puiser dans ses réserves pour rester en vie avec un but vraiment dramatique. Là. C'est le genre de moment, je pense, qui peut changer le vent de côté, là, sans dire que c'est probable qu'il y a une des remontées les plus surprenantes de l'histoire du sport qui survienne. On peut davantage y croire là, ce matin.
Ben écoute, tout simplement, et je pense qu'il faut simplement, peu importe ce qui arrive, là, peu importe si le Lightning l'emporte en 5, peu importe, évidemment, si les Canadiens remportent la Coupe Stanley en revenant de l'arrière d'un retard de 0-3, ça va être merveilleux, je vous le dis, dans le prochain, c'est probablement la série du siècle pour les partisans des Canadiens, là, mais supposons qu'il y a une défaite, c'est quand même une superbe saison, honnêtement, là, d'avoir été capable d'éliminer les Maple Leafs de Toronto, une grosse puissance que tout le monde mettait au premier rang de la section Nord, par la suite éliminer les Jets de Winnipeg, une matchs. Équipe qui est assez complète, qui avait plusieurs excellents centres. Je comprends que Mark Scheifele a été suspendu lors du premier match, mais il y avait quand même des Blake Wheeler, des Pierre-Luc Dubois. Tu as des joueurs de profondeur comme Adam Lowry, comme Mason Appleton qui était dans cette équipe-là. Carl Connor, exactement. Donc, c'était pas de la tarte de battre cette équipe-là. On l'a fait. Par la suite, les Golden Knights de Vegas, une équipe super lourde, une équipe quand même difficile à affronter, aller se battre dans les coins. Finalement, les Canadiens, c'est eux qui ont dicté le tempo. Donc, simplement de remporter ces trois séries-là, c'était vraiment incroyable. Et là, on affronte le Lightning de Tampa Bay, l'équipe avec le plus d'expérience dans la Ligue. L'équipe, les gens vont faire des blagues avec ça, mais il faut quand même le dire, ils ont 18 millions au-dessus de la masse salariale. Ça fait en sorte qu'ils ont une excellente équipe. Et les Canadiens, avec le match d'hier, on pourrait même dire le match numéro 2 où ils ont perdu, mais qu'ils ont dominé, ben, ça fait en sorte que c'est seulement plaisant de voir ça. Et d'autant plus que tu as plusieurs jeunes qui sont dans l'organisation des Canadiens. C'est simplement de l'expérience. C'est vraiment un gros boni qu'on est en train de prendre présentement. Des jeunes comme Suzuki, des jeunes comme Cole Caulfield, présentement se développent à vitesse grand V. Parce qu'ils ont des super belles expériences.
Mais tu fais bien de dire Bonnie, parce que c'est vraiment, vraiment juste la petite cerise sur le gâteau, parce qu'on s'entend que le personnel d'entraîneur, le Canadien, ben pour eux en ce moment, le développement des jeunes, c'est vraiment le dernier des soucis. Là. Ils sont pas en train de penser, écoute, c'est tellement le fun qu'on ait gagné 3 séries, ils sont encore en mode gagner la Coupe Stanley en ce moment. Là.
Ben, en finale de la Coupe Stanley, comme tu viens de le dire, le but, ça devient tout simplement de remporter la Coupe. Tu laisses faire le développement, puis honnêtement, c'est seulement de l'apprentissage. Même un joueur comme Gasperi Kotkaniemi, qui était dans les gradins hier, c'est simplement de l'expérience. Tu vois l'intensité, tu vois à quel point c'est taillé au couteau, à quel point c'est, on va se le cacher pas, les gars, l'intensité est beaucoup plus élevée dans un match comme hier que dans le match numéro 41 face aux Flames de Calgary, par exemple, où les joueurs ont davantage hâte justement que les séries arrivent. Là. C'est un gros, gros, gros bagage d'expérience que ces jeunes-là ont. Par rapport à des jeunes comme les espoirs des Ducks d'Anaheim, par exemple, qui vont le vivre à un moment donné.
C'est pour ça que j'étais content hier pour Romanov, parce que lui qui a la majorité du temps en séries éliminatoires a été forcé de regarder la partie des gradins. C'est sûr, comme vous le dites, il y a cet apprentissage-là quand même qui se fait. Mais de là, hier, dans un match le plus important des séries, où est-ce que tu fais face à l'élimination, la Coupe Stanley peut se remporter, Romanov arrive, non seulement marque un gros but, mais en plus, il a été sur la glace quand même pendant un bon bout de temps, parce que pendant un certain temps, Chiarot et Petrie se retrouvaient au banc des punitions à cause de cette escarmouche là, dans le coin. Donc, ça a fait en sorte que Romanov a vu beaucoup de glace et il ne m'a pas semblé intimidé du tout. Il a même distribué des mises en échec, des bonnes sorties de zone, a brisé des jeux. Oui, il est sur la patinoire pour le deuxième but du Lightning, mais ça reste que moi, j'ai aimé sa partie et ça augure bien. Visiblement, Dominique Ducharme ne fera pas de changement On verra comment il sera exploité à Tampa Bay, là où est-ce que le Canadien n'aura pas le dernier mot pour les joueurs employés sur la patinoire. Ouais. Mais moi, je suis encouragé du rendement de Romanov. Ouais. Il n'était pas rouillé du tout hier.
Je suis content que tu en parles de Romanov parce que toi, tu avais dit que tu voulais voir Romanov dans la formation à un certain moment. Et moi et Marley, on était à l'aise avec le fait qu'il soit écarté. Et force est d'admettre, OK, la première fois qu'on avait inséré Romanov dans la formation pour les séries, ben moi, je l'avais trouvé coup-ci, coup-ça. Je l'avais pas trouvé mauvais, mais disons que je l'avais trouvé ordinaire. Mais là, on l'a réinséré dans la formation. Et honnêtement, hier soir, là, Romanov m'a vraiment surpris. On dirait que j'ai revu le Romanov du début de la saison. Moi, c'est ces pinches, honnêtement, qui m'ont tapé à l'œil. Là. Ces pinches étaient délectables, tout le temps présents là, dans la zone offensive pour aller garder le jeu en vie et utiliser son corps pour prendre l'adversaire au corps pour garder la rondelle dans la zone. J'ai vraiment aimé ses interventions en zone offensive. Et sinon, je trouve qu'il a gardé son jeu simple et j'ai été surpris qu'il marque parce que pendant toute la saison, Romanov peine à placer son tir à travers le trafic. Et là, tu es en finale de la Coupe Stanley, possible élimination et tu marques un but. Parfois, le hockey est juste bizarre, les gars.
Exact. Puis quand je dis qu'il a connu un bon match, c'est pas nécessairement parce qu'il a marqué, c'est oui. Vraiment dans l'ensemble général, là, j'ai aimé sa performance.
Mais tu sais, on se le cachera pas, les gars. Si Alexander Romanov veut être capable de produire un. On s'entend, ce ne sera jamais un candidat au trophée Norris, ce ne sera pas un défenseur qui va obtenir plus de 50 points dans une saison. Là. Mais s'il veut être capable de contribuer un petit peu offensivement, il doit faire exactement ce qu'il a fait sur son but. La rondelle est arrivée sur son bâton, je pense que ça a pris 2 secondes, c'était exactement. Directement au filet. Puis c'était rien de compliqué, là. C'était pas un lancer foudroyant comme à la chez Weber. Là. Il a tout simplement dirigé la rondelle au filet, puis là, ça a donné qu'il a... Il a marqué d'une façon un peu directe, mais il aurait pu avoir un tir dévié, il aurait pu avoir la vue obstruée du côté du gardien. Il y a plein d'options qui peuvent arriver. Et c'est ça qui est intéressant, simplement placer la rondelle au filet. C'était quelque chose que tu pouvais remarquer dans le jeu de Romanov dans les dernières années. Peut-être qu'on l'a moins vu à Montréal, mais lorsqu'il était dans la KHL ou dans les rangs juniors en Russie, on voyait qu'il avait cette aptitude-là qui peuvent rendre ça intéressant. Donc, on verra bien comment ça va se dérouler pour le match numéro 5 demain. Mais sur cette facette-là, ça a été quand même assez bien hier, du moins sur son but.
Mm-hmm. Je sais pas si vous avez vu sur Twitter, il y a une idée qui circule présentement, une idée honnêtement que je qualifierais de farfelue. Il y a un partisan qui a avancé en devenant une défaite du Canadien là, en 5, de tout de même tenir une parade pour féliciter le parcours des Canadiens. Moi, honnêtement, quand tu as 24 bannières au plafond, là, une parade parce que tu as perdu en finale, non, merci.
Non. Écoute, si tu veux être un champion, tu dois te comporter un champion. Puis une équipe qui vient de perdre en finale doit être amère. Il doit pas avoir de célébration autour de ça, ben je m'excuse. Là. C'est comme moi, les médailles de participation qu'on donne aux jeunes, là, c'est bien cute, là, mais j'ai beaucoup de misère avec ça parce que tu vas jamais enseigner l'imputabilité, l'éthique de travail et le fait que ça prend des sacrifices pour gagner puis avoir des résultats dans la vie. Là.
Ouais, c'est correct jusqu'à 8 ans, là, mais m'amener...
À slack un peu, c'est ça.
Exact. Alors, le Canadien, on le sait, en finale de la Coupe Stanley, je ne vous apprends rien. Ça veut donc dire qu'il repêchera au 30e ou 31e rang lors du prochain repêchage. La semaine dernière, avec Kevin Dubé, d'ailleurs qu'on salue, c'était vraiment un podcast très intéressant. Si jamais vous n'avez pas eu la chance de le voir à la maison, je vous invite à aller faire un tour. On s'est attardé un peu sur la première moitié de la première ronde, je dirais, les top guns, là, les joueurs vraiment qu'on s'attend, le top 10, le top 12, les gros noms du prochain repêchage. Messieurs, j'aimerais ça ensemble aujourd'hui, qu'on s'attarde plus à la deuxième moitié, celle dans laquelle le Canadien aura la chance de piger, pas nécessairement des joueurs qui seront repêchés 30e ou qu'on prévoit 30e, mais des joueurs dans ce bassin-là. Est-ce qu'il y a des joueurs, vous, qui passent un peu sur le radar, que vous dites, ce joueur-là, c'est un NHLer, ça sera peut-être pas un marqueur de 70 points, mais ça va être un solide ailier de deuxième trio ou quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez des joueurs comme ça dans votre fenêtre que vous aimez bien?
Ben moi, vois-tu, chaque repêchage, il y a tout le temps un joueur que tu vas espérer qu'il glisse pour qu'il se rende au rang de ton équipe, OK? Et moi, je pense que le Canadien doit prier pour qu'un gars comme Stankoven glisse. Ça serait quand même surprenant, mais j'ai vu des plus grosses surprises au repêchage. Là. Si je regarde le classement de la centrale, il est pas mal sur le classement nord-américain, il est 31e. Là, fait que selon eux, ça serait très plausible. Ben là, d'après moi, c'est beaucoup moins plausible qu'il n'y paraît, là, selon le classement de la centrale, parce que dans les autres listes, il est beaucoup plus haut. Mais Stankoven, honnêtement, je pense pas que tu peux te tromper avec un joueur de même. Là. Ce serait un choix parfait là, à la fin du premier tour. Il y a un peu de Gallagher dans le nez. Là, on l'avait vu justement au mondial des moins de 18 ans. Super bon instinct de marqueur et surtout, il y a beaucoup de caractère.
Je te pose la question, Nick, juste avant de te relancer la parole, Marty, excuse-moi de te couper. Stankoven fait 5 pieds 8. Le Canadien, cette année, je pense, gagne, notamment parce qu'ils ont pris de la masse, où je sais que c'est
absolument
la défense.
Absolument.
Des gars comme Edmondson, Sherrod, Weber, ferme le centre, Anderson, il est gros. Perry, il est imposant, Stahl. Penses-tu que le Canadien tente un peu de se détacher de cette identité-là de petit joueur, puis que Stankoven à 5 et 8, même s'il y a de la fougue, là, ça serait peut-être moins un bon fit avec le CH?
Ça prend un mélange. Écoute, au même titre que les gros joueurs aident le CH en ce moment, ben, t'as des gars comme Caulfield, t'as des gars comme Byron, t'as des gars comme Gallagher qui ont aussi leur utilité. Donc, je pense que ça prend toutes sortes de dimensions dans une équipe de hockey pour pouvoir jouer plusieurs styles de jeu. Et le Lightning aussi en a des petits joueurs. Et ça ne veut pas dire que le Lightning est bâti comme une petite équipe. Là, ils ont une des défenses les plus costaudes, là, les plus lourdes de la LNH. Je pense que c'est de plus en plus, là, écoute, je te dirais, les jockeys, ça me laisse un peu sceptique parfois, parce que c'est pas tous les défenseurs qui sont des futurs Cale Makar ou des futurs Quinn Hughes. Et quand tu regardes les brigades défensives qui se rendent loin en série dans les 2-3 dernières années, ben c'est des brigades qui sont assez lourdes. Fait que je réfléchirais à ça, surtout pour les défenseurs, mais pour des attaquants, là, je pense que tu as beaucoup plus de lousse, là, surtout qu'un petit attaquant, là, le bas centre de gravité, je pense que ça peut être un avantage là, pour récupérer des rondelles en fond de territoire. Là.
Tu sais, un peu comme tu disais, Nick, je pense que c'est un mélange que tu as besoin. T'sais, tu peux avoir un défenseur comme, je vais prendre un exemple, Samuel Girard au Colorado. C'est pas un désastre d'avoir un défenseur comme ça.
Ouais.
Mais c'est comme tu dis, ça prend un mélange. Tu peux pas avoir 6 Samuel Girard, ça ne fonctionnera pas à un moment donné. Mais tu veux un Samuel Girard avec un chez Web. Là, je mélange des joueurs, là, mais Samuel Girard avec un Shea Weber ou un Edmondson avec un défenseur un peu plus petit comme... les gens ont beaucoup critiqué Edric Gustafsson. Moi, je comprends un peu pourquoi il est dans la formation parce que c'est un défenseur peut-être un peu plus petit que les autres, mais au moins, il bouge bien la rondelle. Il apporte une dimension que les autres défenseurs des Canadiens n'apportent pas nécessairement.
Ouais.
C'était une bonne décision de le laisser de côté. Je fais simplement.
Non, non, mais OK. C'était une bonne décision de le laisser de côté, mais je suis d'accord avec Marty dans le sens que pendant certains matchs, il apportait quelque chose que tu as plusieurs défenseurs qui n'apportaient pas dans la formation et tu as besoin d'un mélange. Tu as besoin de joueurs qui apportent différentes habiletés. Tu peux pas avoir le même moule de joueurs ben, sur tes 4 trios puis sur tes 3 paires défensives. Ça fonctionne simplement pas dans l'NH. Là.
Je trouve qu'on se scandalise tellement avec « Ah, le joueur devrait être sorti de la formation ou rentrer Romanov, etc. » Faut pas se faire d'illusions. Éric Gustafsson a été amené à Montréal contre un choix de 7e tour.
Ben oui.
C'est pas mal ça qu'on s'attendait, qu'il soit de temps à autre, même il a peut-être joué plus qu'on s'attendait, là, qu'il fasse le travail comme pendant 2 ou 3 ou 4 rencontres. Et si ça ne fonctionne pas, tu le retires de la formation et tu rentres un Romanov ou un Kulak ou un Merrill. Ça a toujours été... Et je trouve qu'on se scandalise un peu par la présence de Gustafsson et il n'a quand même pas amené nécessairement de mauvaises choses, surtout pour diriger l'avantage numérique, mais de là à s'attendre à ce qu'il fasse le même travail qu'un Edmondson ou un Jeff Petrie, là, je pense que c'est
fabuleux. Juste pour répondre vraiment là, plus en synthèse là, à ta question, désolé, ben, je pense que c'est... tu sais, on voit souvent là, les équipes copier le style des équipes qui se rendent dans le carré d'as ou des équipes qui se rendent en finale de la Coupe Stanley ou de l'équipe qui gagne la Coupe Stanley. Mais je pense que la conclusion que certaines équipes pourraient tirer des présentes séries ou même des dernières années en séries éliminatoires, c'est que ben, c'est davantage en défense que le poids, c'est primordial. Parce qu'on regarde la défense du Lightning, je pense que le défenseur là, le moins imposant, c'est Ryan McDonagh. Et Ryan McDonagh, c'est pas un manchot pour autant. Et même, on regarde la défense des Canadiens. T'as Sherrod et Weber sur une même paire défensive. Là. Je pense que ça en dit long. Là. Alors, les jockeys ont une importance, là, mais même Samuel Girard, là, on l'a vu en séries éliminatoires, il y a eu des ennuis, il y a eu des difficultés. C'était pas le même joueur qu'en saison régulière. Alors, il y a des joueurs qui vont t'amener loin en saison régulière, il y en a qui vont t'amener loin en série. Ça prend un mix des deux. Mais en défense, c'est surtout là que je mettrais l'accent sur la robustesse, là, sans y aller pour des joueurs qui savent pas nécessairement jouer au hockey. Là.
Mais moi, je l'aime bien, Stankoven. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est un centre. Là, on parle beaucoup de défenseurs, là, mais lui, c'est un joueur de centre. Et ce que j'aime particulièrement de lui, il y a des joueurs qui attendent. Il y a des joueurs qui ont besoin de se faire envoyer la rondelle dans des bonnes situations pour avoir une chance de marquer. Lui, il est capable de créer la chance de marquer par lui-même. C'est pas un joueur qui va rester en périphérie, qui va attendre. Oui, il a un petit gabarit. Non, exact. Mais malgré son petit gabarit, c'est un joueur qui est très créatif. Par contre, comme tu l'as dit, Nick, il est quand même assez haut dans les listes. Moi, je serais surpris qu'il glisse plus bas que 25. Si le Canadien veut ramasser Stankoven, va devoir s'avancer. Mais
comme je te dis, il y a toujours un joueur qui glisse. Moi, je te dis, exact. Il y a toujours un joueur qui glisse.
Et je reviens sur ce que tu as dit il y a peut-être une minute. L'année que les Blues ont gagné la Coupe, la plupart des directeurs généraux se sont dit ils sont gros, ça nous prend des gros joueurs. Est-ce que c'est le seul facteur qui a fait en sorte que Cole Caulfield glisse jusqu'à 15? Ben, peut-être que non, peut-être. Mais c'en est assurément un. Ouais. Donc, est-ce qu'un petit joueur comme Stankoven pourrait glisser? C'est possible, mais ce sera à suivre. Marty, ton côté.
Ben, dans le cas de... Simplement revenir sur Stankoven, là, deux points. Le premier, c'est que par rapport à son classement, par rapport à la centrale de recrutement de la LNH, il y a une tendance que j'ai souvent remarqué dans les dernières années avec la centrale. Là. Eux, ils ont tendance à prioriser beaucoup. Là, eux, clairement, le caractère, c'est quelque chose qui est important. Les joueurs qui sont capables de s'imposer dans les coins, si tu veux. Là. Et c'est pas nécessairement... c'est une surprise, c'est pas une surprise. Là, je vais donner un exemple. Mason McTavish est deuxième dans leur liste. Ça a pris tout le monde. Mais c'est justement le genre de joueur que la centrale adore. À l'opposé, un joueur comme Stankoven, qui est peut-être un peu plus petit, ça explique peut-être pourquoi il est peut-être un petit peu...
Mais il y a beaucoup de caractère, Stankoven.
Il y a du caractère, mais il est 5 pieds 8.
Il y a du chien, Stankoven.
Il y a du chien, mais c'est 5 pieds 8 pouces. Ouais, les joueurs comprends. Un peu plus petits ont tendance à être un petit peu décotés
par la centrale. Écoute, Lawson Crouse, il avait été très, très haut là, dans le classement de la centrale. Là.
Ben, c'est ça, tu vois, exactement. Ouais. Puis l'autre chose par rapport à ça, ben, vous avez semblé dire, si c'était moi qui sélectionnais pour les 31 équipes, il ne serait pas au rang des Canadiens. Là, je l'adore aussi, Stankoven, c'est un de mes coups de cœur, si tu veux. Mais j'ai l'impression que par justement le fait qu'il soit petit, puis peut-être les équipes ont tendance à prioriser des joueurs un petit peu plus de gros gabarits. Je serais pas surpris, moi, qu'il glisse un petit peu, là, puis qu'il se rende peut-être à 30 ou 31 dans les environs des Canadiens, puis qu'il soit capable de le sélectionner. Il va se peut qu'il sorte plus tôt, mais moi, je ne serais vraiment pas surpris, honnêtement, tout simplement en raison de sa taille.
Là. Intéressant. Stankoven qui avait fait belle figure là, au championnat mondial des moins de 18 ans pour l'équipe canadienne. Ça m'amène sur un joueur que j'aimerais ça qu'on discute. Un joueur russe, Nikita Shibrikov, lui, il avait été excellent. On en parlait beaucoup parce qu'il y avait Matvey Mishkov qui faisait le plus beau temps avec les Russes.
Il était sur le même trio, hein, ces deux-là, si je me rappelle.
Exact. Oui, et un tirait l'autre. Donc, Mishkov finissait les jeux, mais Shibrikov était vraiment la bougie d'allumage. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Il avait obtenu quand même 13 points en cette partie. Est-ce que vous vous attendez qu'il soit un joueur d'impact dans la Ligue nationale ou la transition Russie-NHL? À l'occasion, c'est un peu plus difficile. Ben, quel genre de portrait le Condrey?
Je laisserai plus la parole à Marty parce que je l'ai vu brièvement pendant le championnat des moins de 18 ans, mais encore là, c'est vraiment difficile pour moi de dissocier l'impact là, de Mishkov dans ses performances. Puis c'est quoi la place qu'il a là-dedans? Puis c'est qui vraiment Shibrikov si tu l'enlèves de Mishkov? J'ai de la misère à me prononcer là-dessus, fait que je suis vraiment curieux d'entendre Marty ce qu'il en pense.
Première des choses, si les Canadiens sélectionnent Shibrikov, ce serait spectaculaire seulement pour les deux premières lettres de son nom de famille. Ça, ce serait fabuleux. D'ailleurs, lorsque tu as envoyé les notes pour le plan, Anthony, j'ai remarqué que tu avais mis le CH en majuscule. Je pense que c'était pas un hasard.
C'est un message subliminal, Marty, que tu as su décoder avec brio.
Wow.
Et j'ai tout jeté mes fagnons du Wild pour ceux des Canadiens. Tu vois, ça a fonctionné.
Bon, parfait.
Mais pour revenir à Shibrikov, moi, honnêtement... Si je me fie aux listes que j'ai vues, aux différentes listes et où Shibrikov est placé, ben, je suis obligé de te dire que c'est peut-être le joueur que je préfère davantage. Tu sais, on peut dire le coup de cœur, un joueur que tu places plus haut que tous les autres. Là. Shibrikov, je suis obligé de te dire que c'est ça. En ce moment, moi, il est peut-être environ 12, 13, 14e. Là. C'est quelqu'un que j'adore. Parce qu'il est bon dans les... Là, c'est sûr qu'on l'a vu surtout en fabriquant de jeu parce qu'il devait alimenter un joueur comme Mishkov, qui est un excellent marqueur. Mais lorsque tu le regardes dans d'autres calibres de jeu, que ce soit au niveau de la NHL ou de la... Parce qu'il a joué dans la KHL cette année, là, le, Là, je vous ramène en arrière. Lorsque la COVID-19 frappait un peu partout dans le monde et que c'était vraiment difficile, la KHL a décidé de faire des matchs quand même. Ouais. J'avais regardé un match du SKA de Saint-Pétersbourg et sans farce, les gars, il y a au moins 20 joueurs qui ne jouaient pas parce qu'ils étaient atteints de la COVID-19.
Ben oui, mais ça avait complètement changé le portrait du repêchage aussi avant la tenue de la séance. Là. Des Mukama Doulin de ce monde, là, puis j'oublie le joueur des Jackets. Là, Shinnakov, là, ouais, ouais, exact. Continue. Ouais.
Mais ça, c'est dans d'autres équipes. Là. Il y avait de la place, puis ces gars-là ont continué à jouer, même lorsque la COVID-19 s'est un peu retirée des équipes. Mais dans le cas du SKA, c'est qu'il y a vraiment 20 joueurs qui ne jouaient pas, puis c'est tous des joueurs assez importants. Ce qui a fait en sorte que l'équipe junior... C'était l'équipe junior qui avait disputé le match que j'ai regardé. Et Shibrikov était dans la formation. C'était le plus jeune joueur à évoluer dans ce match-là. Et j'avais donc aimé à quel point il était bon dans les deux sens de la patinoire. Évidemment, là, c'est la KHL, c'est probablement la deuxième meilleure ligue au monde. Je suis pas en train de vous dire qu'il dominait offensivement et qu'il avait des chances de marquer. Là. Mais pour un joueur de 17 ans, tu disais, hey, il est capable de tenir son bout défensivement. Il n'est pas mauvais au niveau du coup de patin. Capable de tenir son bout également sur une plus grande patinoire. C'était intéressant. Puis dans le fond, c'est ça que moi, je veux retenir. Oui, c'est un fabricant de jeu. Oui, il a un bon coup de patin. Oui, il défend quand même bien. Je trouve que c'est un super beau potentiel offensif. Et il a fait ses preuves également dans des ligues plus professionnelles contre des hommes. Donc moi, c'est pourquoi j'ai tendance à dire, je pense que tu es davantage sûr de ce que ce joueur-là va t'apporter. Et c'est pourquoi je l'ai peut-être un petit peu plus haut. Maintenant, c'est sûr qu'il y a toujours la fameuse menace Rusty-KHL. Est-ce que le joueur a signé 2 ou 3 ans puis il était menotté pendant... Tu ne peux pas l'amener avec ton équipe en Amérique du Nord jusqu'à... 21 ou 22 ans, c'est une possibilité, mais moi, simplement, au niveau du talent, moi, j'adore beaucoup ce que je vois de Nikita Shcherbakov, et honnêtement, je regardais beaucoup les listes, puis je m'amusais à me dire, OK, quelle équipe, qu'est-ce que les équipes pourraient sélectionner, puis je pense que c'est un joueur qui peut glisser là, dans les alentours de 22, 23 ou 24, là, puis il va être sélectionné vraiment clairement, je pense, plus tard que ce qu'il devrait, là, honnêtement.
Intéressant.
Moi, je l'aime bien. Je l'avais apprécié avec le U18. C'est sûr que tous les yeux étaient tournés vers son compatriote, là, mais ça reste que Shibrikov, comme tu dis, Marty tenait son bout. Et je suis assez d'accord avec toi, moi aussi, je pense qu'il va être sélectionné dans le bout de 22 à 25, mais ça devrait être une prise intéressante. Marty, ça serait quoi ton joueur que tu vas nous faire découvrir?
Mais... Moi, ce que j'ai décidé de faire, les gars, c'est pas nécessairement le joueur que je souhaite que les Canadiens choisissent. Je me suis davantage amusé avec ce que Trevor Timmins a tendance à sélectionner dans les dernières années et qu'est-ce qui est disponible aux alentours de la fin du premier tour et du début du deuxième tour. Puis je me suis amusé à sortir des joueurs davantage. Fait que je vais être honnête, j'ai pas sorti de Québécois nécessairement dans ma liste. Mais j'ai sorti 4 noms qui pourraient peut-être être intéressants. Il y avait Stan Corin dans mes 4, donc okay. Lui, on l'élimine tout de suite. Là. Il y a 2 noms qui sont intéressants et on le sait, là, Trevor Timmins adore piger un peu dans ces ligues-là. C'est 2 joueurs de la USHL.
Okay.
2 joueurs qui... En fait, il y en a un qui a commencé sa saison dans les rangs secondaires et puis par la suite s'est retrouvé avec le Force de Fargo. Qui a perdu en finale contre le Steel de Chicago et Sean Farrell et Matthew Coronato, là, qui ont l'équipe qui est vraiment archi-dominante et qui a fini par gagner le gros trophée. Mais du côté de Fargo, il y a 2 joueurs qui m'ont impressionné. Le défenseur gaucher Jack Peart, un gros défenseur quand même assez imposant. Je trouve qu'il est bon dans les 2 sens de la patinoire. Il ne se complique pas nécessairement la vie, capable d'amener ça au filet. Je pense que ça va être davantage un joueur de... deuxième vague d'avantage numérique, si tu veux. Quelqu'un qui va simplement distribuer la rondelle, super efficace, super bon dans sa zone et c'est également, il y a quand même le gabarit intéressant puis patine bien. Puis, vous savez, Trevor Timmins, je l'ai souvent dit, je pense qu'il accorde quand même une assez bonne importance à ce que tu fais dans les séries éliminatoires lorsque ça compte. Et Jack Peart a aussi son niveau d'un cran. C'est 7 points en 9 matchs. Là. J'ai regardé le dernier match face à Chicago, puis honnêtement, il était très, très bon. Oui, il y avait beaucoup de menaces de la part de Chicago, mais il tenait quand même son bout. Là. Et dans la main...
Ce qui est fun avec Jack Peart, en plus, Marty, c'est que j'ai lu un petit peu sur lui, là, j'ai pas eu la chance de le voir jouer en personne, mais des textes que j'ai consultés, il a l'étiquette de gagnant. C'est une personne qui est compétitive et qui veut gagner, et on le décrit comme un joueur extrêmement intelligent, puis je pense que ça... Autant, c'était peut-être pas un critère qui était mis de l'avant dans les années 70, dans les années 80, mais je pense qu'en 2020, on n'a pas le choix de mettre de l'avant l'intelligence sur la patinoire, autant pour un attaquant que pour un défenseur. Et je pense que ce trait de caractère-là, ça va lui permettre de faire une belle transition vers la NHL. Et comme tu dis, il a terminé sa saison avec 11 points en 13 parties pour un défenseur. Donc, c'est un joueur complet, puis il va être intéressant à surveiller.
Ben, savez-vous quoi, moi, les deux critères les plus importants pour moi, là, si j'étais un chef du recrutement amateur, là, ce serait intelligence, caractère. Tu as beau avoir les meilleurs puck skills, tu as beau avoir le meilleur tir, tu as beau avoir la meilleure vitesse. Ouais. Si tu n'as pas du sens du jeu, de l'intelligence et du caractère, j'ai de la misère à devoir avoir un grand impact dans la LNH.
Ben, tu peux te débrouiller sans. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là. Moi, c'est souvent les deux choses que je regarde chez un espoir. Là. C'est sûr que tu peux te débrouiller sans ça, mais tu risques peut-être d'être davantage un joueur de troisième, quatrième.
Tu vas être un joueur plus marginal. Quand je parle d'avoir vraiment un impact dans la LNH, là, si tu veux être un joueur qui est sur l'un des deux premiers trios, là, qui peut être utilisé dans plusieurs situations, là, qui est vraiment un bon joueur de la LNH, là, ça prend les deux qualités.
Puis je vais aller à une dimension qu'on ne parle pas tout le temps par rapport aux joueurs intelligents. Mais dans 10 ans, la Ligue nationale de hockey, là, le style va avoir changé. Je ne suis pas capable de vous dire à quoi ça va ressembler. Puis vous n'êtes pas capable non plus. Si vous êtes capable, vous êtes des menteurs. Simplement. Là. Mais tout simplement pour dire que le style va changer. Il y a des joueurs qui vont devoir ajuster leur jeu pour demeurer dans la LNH. Et force est d'admettre que les joueurs intelligents ont davantage de chances parce qu'ils vont être davantage capables de comprendre. OK, je dois améliorer, je sais pas, mon lancer. Je dois être plus physique. Je dois être plus rapide, peu importe la qualité, ces joueurs-là vont être capables davantage de s'ajuster. Le meilleur exemple, c'est probablement Nick Suzuki. Nick Suzuki, dans les rangs juniors, c'est un joueur super intelligent, comprenait bien le match. Puis, c'était peut-être pas le joueur plus rapide, alors qu'on n'arrête pas de dire que c'est une ligue de vitesse, mais regardez ce qu'il fait dans la LNH présentement. Est-ce que sa vitesse lui nuit? Pas du tout. Au contraire, il suit parfaitement le jeu, toujours bien positionné. Applique de la pression, bon défensivement, tu sais, c'est...
Ben, c'est tellement pertinent que tu dises ça, parce que je regardais un tweet de Jack Han récemment, là, très pertinent. Jack Han, c'est un ancien membre de l'organisation des Maple Leafs, qui s'attardait au développement des joueurs, notamment. Là. Il disait, il y a un défenseur offensif dans le Midget 3 qui m'a écrit et qui me disait qu'il regardait souvent jouer Cale Makar et Quinn Hughes, je pense. Et Jack Han lui avait répondu, mais pourquoi tu ne regardes pas jouer Adam Fox? Parce que l'affaire, c'est que tout le monde, ben, il y a beaucoup de monde qui a un bon coup de patin dans la LNH, donc peut-être que l'avantage que tu as avec ton coup de patin dans le midget 3A, ben, il va facilement s'estomper dans les niveaux supérieurs. Et après, qu'est-ce qui va prévaloir? Ben, c'est ton intelligence. Et qu'est-ce que Adam Fox a malgré un coup de patin déficient? C'est le sens du jeu. Alors, si tu es un défenseur offensif, ben, peut-être que tu ferais mieux de regarder Adam Fox que Cale Makar et Quinn Hughes, parce qu'eux, ils ont un coup de patin exceptionnel que tu vas avoir de la misère à copier, que tu vas avoir de la misère à atteindre. Et ce qu'on appelle là les fast twitch muscles, là, c'est quelque chose d'un peu prédéterminé à ta naissance. Les fast twitch muscles, c'est le tissu musculaire que tu as quand tu es né qui va déterminer si tu es capable d'accélérer rapidement. Et ça, c'est très, très, très difficile à développer avec l'entraînement. La vitesse de pointe, tu peux l'atteindre avec l'entraînement, mais les fast twitch muscles, c'est souvent assez prédéterminé. Alors, ça se peut que tu arrives dans la LNH et tu te rends compte que ben, finalement, j'en ai peut-être pas assez pour avoir une foulée qui va me permettre de me distancer du porteur. Alors, si tu n'as pas des fast twitch muscles, mais que tu as le sens du jeu, ben, comme Nick Suzuki, tu vas t'en sortir. Mm-hmm. Alors, regardez Nick Suzuki et Adam Fox au lieu de regarder les marchands de vitesse si vous êtes des jeunes joueurs.
Ouais. Mais c'est pas Jack Han également qui parlait. Lui, je pense que c'est plus au niveau physique. Là. Puis je pense que c'est dans le cas de Simon Edvinson. Là. Je suis pas certain. Là. Mais qui disait justement, là, les gens n'arrêtent pas de regarder. OK, le gars, il 6 pieds 3 pouces puis il patine, mais... Si tu t'amènes ce gars-là au niveau professionnel, ben les joueurs sont tous un peu plus gros, ils sont tous à peu près 6 pieds 2, 6 pieds 3 pouces. Donc, c'est sûr que si tu ressors contre des joueurs de 5 pieds 10 ou 5 pieds 11, ça c'est facile. Mais lorsqu'ils sont tous de ta taille, ben là, ça change tout.
Tu sais. Ben, Oliver Shillington.
Ce qui est arrivé. Exact. Ça entendu assez long.
Ben, à Broberg, dans une moindre mesure aussi, mais bon.
C'est pour ça qu'il y a un travail de regarder les joueurs là, puis de se dire, OK, est-ce que son style de jeu se transpose à la LNH? Il y en a que... Même s'ils ne sont pas nécessairement dominants au niveau statistique, tu dis, oh non, lui, c'est sûr qu'il va être absolument excellent à la LNH, va faire la même chose. Il y en a d'autres que tu vas dire, eux, c'est oublie ça, il va se faire arrêter tout de suite. C'est, je te dirais que c'est peut-être le principal défi. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a des joueurs qui vont faire des saisons de 100 points juniors. Ben, des fois, il faut que tu les écartes. En tout cas, c'est là que tu as t'as un processus à faire pour déterminer que le joueur, c'est un gars de la LNH ou non. T'sais.
Après ce long détour, Marty, tu nous as parlé d'un coéquipier de Jack Peart, le défenseur. De qui s'agit-il?
Ouais, ben dans le fond, là, c'est un attaquant. On parle de Tristan Bros. Lui, c'est, il a une excellente saison, honnêtement. Là, c'est 51 points en 54 rencontres. Et lui également, c'est un joueur qui a eu de bonnes séries. C'est 11 points en 9 matchs. Puis, c'est l'autre tard, parce que lorsque je faisais mes recherches, je suis tombé sur une analyse d'Elite Prospect qui, eux, disaient que Tristan Bros, c'est un joueur, c'est comme un requin qui flaire le sang dans une mer. C'est vraiment comme ça qu'ils l'ont écrit, là. Puis, non, mais honnêtement, ça reflète bien son style de jeu. C'est quelqu'un qui est assez rapide, même s'il est seulement 6 pieds, c'est pas le joueur le plus. C'est pas un joueur de 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces qui est super imposant, mais. Il est capable d'en imposer dans les coins, il se débrouille quand même assez bien. Il a une bonne présence devant le filet. Là. C'est quelqu'un qui met beaucoup, beaucoup de pression. Puis il est assez complet, là, même autant au niveau de la vision de jeu que du talent de marquer. Puis ça, encore là, dans les qualités, là, caractère, etc., bien, je trouve que c'est quelque chose des parcours sur lesquels Trevor Timmins, dans les dernières années, mise davantage. Et on le sait, là, à 30, là, il peut avoir. Là, on soulève des noms, mais il peut avoir 50 possibilités. Mais c'est ces joueurs-là, peut-être que là, je me dirais, OK, peut-être qu'il y a une chance de voir un de ces joueurs-là débarquer avec Trevor Timmins parce que son niveau de caractère est peut-être plus élevé que d'autres joueurs qui sont projetés vers ces endroits-là.
Puis quand tu dis que Tristan Bros est rapide, ce que j'ai remarqué aussi, c'est drôle parce que oui, il est rapide, mais il ralentit bien le jeu. Mm-hmm. C'est un peu contradictoire, mais c'est un attaquant, je le compare pas du tout à Joe Thornton, là, mais c'est un attaquant qui est capable de gagner la ligne bleue, puis après ça, prendre un peu plus son temps, laisser juste développer, et de voir les espaces libres et ses coéquipiers, où est-ce qu'ils vont être en mesure de récupérer la rondelle. Mm-hmm. Donc ça, on parlait d'intelligence tout à l'heure, ça en est une autre forme. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien d'un attaquant, d'être capable de savoir quand accélérer, parce que, tu sais, je vais prendre un McDavid. Mm-hmm. McDavid, c'est tout le temps, ou Josh Anderson, c'est encore un meilleur exemple. Josh Anderson, c'est je me pose pas la question, je m'en vais au filet. Puis il y a juste ça qui compte. Tandis qu'un gars comme Bros, c'est plus OK, à ce moment-là, je vois une ouverture, je vais pour le surnombre. Ouais. Ah, là, tandis que la défensive est bien placée, je vais ralentir le jeu, je vais laisser les joueurs se développer pour voir s'il n'y a pas une opportunité qui va se créer par elle-même. Donc, moi, c'est une facette que j'aime bien.
À la limite, il y a des joueurs, c'est ça, qui font très bien ça. Ils vont accélérer, puis là, ils vont freiner sec. Là, ils vont utiliser tout l'espace qui vient de se créer devant eux là, avec les changements de vitesse. Ouais.
Mais, tu sais, puis par rapport à Bro, je ne veux pas nécessairement dire que c'est un joueur rapide, là, qui a un coup de patin où il devance tout le monde. C'est plus le style de jeu qu'il joue, c'est plus il y a un tempo rapide. C'est un joueur qui joue. En anglais, tu vas dire high tempo, là. C'est plus à ce style-là que je veux dire. Beaucoup de tempo, beaucoup de rythme. C'est ça qui est intéressant dans son cas. T'sais.
Il y a un joueur, moi, qui m'intrigue beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est le fameux hit or miss. C'est boom or bust. Là. Ça va être un coup de circuit ou ça va être complètement raté. C'est le défenseur Scott Morrow. Il récolte des points à l'appel, mais il a d'énormes lacunes défensives. C'est sûr que ça se corrige. Des problèmes, ça se corrige. T'es mieux d'avoir un joueur qui a des aptitudes exceptionnelles, puis après ça, de travailler sur ses faiblesses. Mais là, je serais curieux de t'entendre, Marty, parce que je regarde ses chiffres. Il y a quand même 48 points en 30 matchs là, à prep school. C'est pas banal pour un défenseur. Est-ce que tu penses qu'il va être en mesure d'améliorer son jeu défensif pour pouvoir passer à l'étape suivante, ou ça va être difficile et ça va rester un joueur marginal, unidimensionnel, vraiment axé sur l'attaque?
Ben, c'est intéressant que tu dis ça parce que j'ai regardé son dernier. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il a joué du côté de Chautauqua St. Mary's au niveau secondaire, mais il a terminé la saison justement avec le fameux Force de Fargo, là, la même équipe que Peart et Bros. Il a même joué en série. Puis tu regardes ses statistiques, aucun point en 6 matchs. Là. Mais j'ai regardé son dernier match, puis c'est drôle. Tu vois, moi, j'ai trouvé que défensivement, c'est bien débrouillé. Il a fait le travail à un contre un, à limiter l'espace. Bon, il y a du travail à faire, là, on s'entend, là, mais c'était moins pire que ce à quoi je m'attendais. Moi, c'est davantage son. C'est sa force, en fait, que je me questionne. Est-ce qu'il est capable. Tu sais, on parlait de transposer des trucs à la LNH, là. Lui, c'est plus là que je me questionne. On ne se le cachera pas, sa grosse force. Le match que j'ai regardé, là, il y a une séquence où il l'envoyait à l'attaque, puis il a obtenu 3 chances de marquer. Il aurait obtenu un échappé. Le gars, on ne se le cachera pas, il a un talent offensif incroyable, il a une créativité monstre, là. Il a des mains spectaculaires. Puis même en défense, il n'a pas peur d'appuyer l'attaque assez souvent.
Mais c'est à se demander pourquoi c'est un défenseur, en fait.
Mm-hmm. Ouais, ben écoute, parfois, parfois, en tant que défenseur, je le sais parce que j'ai joué à l'attaque, puis parfois, tu peux te faire muter en défense. Là. Tu vois davantage de la glace. C'est niaiseux, là, mais parfois, comme tu as plus d'espace, là, t'as plus, comme tu vois mieux la patinoire, tu as plus d'espace pour patiner, transporter la rondelle. Alors qu'à l'attaque, parfois, tu as déjà l'attaquant adverse ou le défenseur dans la face. Donc, tu tournes, puis tu n'as pas le 2 ou 3 secondes d'espace pour être capable de créer des jeux. C'est pas parfois que tu peux dire, OK, le défenseur, il est offensif, je l'enverrai à l'attaque. Pas nécessairement, je trouve.
Mm-hmm. Absolument.
Mais dans le cas de Morrow, moi, c'est là que je me questionne. Son talent offensif est incroyable. Pour bouger la rondelle, c'est fabuleux. Est-ce qu'il est capable de transposer ça à l'ananas? Parce que je trouve que au niveau de son lancer, le flair pour le filet, là, je ne suis pas certain qu'il l'a tout à fait. Moi, je veux en voir davantage. Et l'autre chose, il a produit, mais au niveau secondaire, et c'est un late. C'est un joueur qui est né, je ne me trompe pas, c'est octobre ou novembre 2002. Il est plus vieux que tout le monde. Donc, c'est peut-être un peu normal qu'il domine. Moi, en tout cas, je pense qu'il peut sortir assez tôt. Là. C'est fort possible qu'il sorte à la fin du premier tour, mais moi, je suis une équipe, je ne prendrais pas une chance au premier tour. Moi, je suis Canadien, moi, je ne vais pas pour mon lot.
Je m'attends à ce qu'il glisse un peu exactement pour ça, parce que c'est loin d'être un sure shot. Puis je pense que tu as besoin, avec ton choix premier tour, de frapper à 85% sûr de ta shot. Mm-hmm. Tu sais, Scott Morrow va peut-être devenir le vol, mais il a des bonnes chances aussi de devenir personne, puis c'est rien contre le joueur. Là, mais je pense que quand tu as un choix de premier tour, je ne m'attends pas à ce qu'il sorte 20e, mettons. Ça se peut, là. Mais j'ai plus l'impression qu'il glisse, même il pourrait se rendre début de deuxième ronde, puis je ne serais pas surpris du tout.
Mais t'as un bon point, parce qu'en plus, les sortes de défenseurs qui, à leur année de repêchage, étaient bons en attaque, souvent, c'est des gars qui ont glissé. C'est du monde que des gens aimaient, parfois qui mettaient fin de premier tour, puis c'est des gars qui ont glissé parfois jusqu'au troisième tour. Tu parlais d'Adam Fox, Nick, tout à l'heure. Adam Fox, c'était exactement ça.
Ouais.
Il était super bon son année de 17 ans. Des lacunes peut-être en défense, mais en attaque, il était super, super.
Ben, en défense, mais non, c'est parce qu'Adam Fox, pareil, l'affaire, c'est qu'il avait un sens du jeu incroyable. En défense, il n'était pas si mauvais que ça. Là. Oui, c'était pas le plus robuste. Il
faisait quand même
des batailles pour la rondelle, mais il était tout le temps bien positionné. Il avait tout le temps un bâton dans la ligne de tir, dans la ligne de passe. Alors, c'est pas ma affaire. Moi, mon gros problème avec les défenseurs, justement, d'habitude, qui sont exclusivement offensifs, là, puis qui ont d'énormes lacunes en défense là, au repêchage, c'est que ben, ça dénote, dans la plupart des cas, un sens du jeu qui est déficient. Quand tu as un sens du jeu qui est déficient, je vois mal la route vers la LNH à partir de ça. C'est peut-être un beau pari là, du point de vue du talent à prendre, et on va se rappeler des fois que ça a beaucoup rapporté, mais je pense que la plupart du temps, ça ne fonctionne pas.
Et je pense que c'est pour ça que tu les vois glisser au 2e ou au 3e tour. Est-ce que tu veux mettre un choix de Puis là, l'autre exemple que je m'en allais utiliser, c'est Jérémy Poirier l'an passé.
Moi, je comprends pourquoi il a glissé Jérémy. C'est un bon kid. Il travaille fort. C'est juste que défensivement, ça vient pas naturellement pour lui comme ça vient pour les autres joueurs.
Mais c'est ça. Puis tu sais, on se le cachera pas, là, regarder les partisans lorsqu'il y a un Ryan Poehling, par exemple. On n'arrête pas de le dire. Soyez patient avec Ryan Poehling. Puis imaginez-vous pas de voir un joueur de 90 points dans la LNH. Là. Puis, dans le fond, tu regardes... comment je dirais bien ça? J'ai perdu mon idée, là, mais ça va me revenir.
Non, mais quand tu parles de Ryan Poehling, c'est un peu ça que je veux dire en fin de premier tour. Tu veux y aller plus pour un joueur safe que pour le coup de circuit ou pour la perte de
okay,
la perte. Pour le boss. Tu sais.
Mais ça vient de me revenir. Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est là, les gens critiquent Ryan Poehling. Ouais, il n'est pas encore dans la LNH, il n'est pas si bon que ça. Bon, c'est. Là, on le caractérise déjà comme un flop, si tu veux, là. Donc là, c'est là que tu dis, est-ce que tu veux prendre un choix de première ronde, de te mettre la pression de prendre un défenseur unidimensionnel offensif qui en arrache peut-être en défense? Là, par la suite, tu l'amènes, supposons, dans la LNH, parce que ces gars-là, honnêtement, ont des talents offensifs vraiment extraordinaires. Mais là, supposons. Ça, on parlait d'Éric Gustafsson, là, j'apprendrai rien. On n'apprendrait rien à personne en disant que t'aimes pas Éric Gustafsson, Anthony. Mais tu vois, il y a d'énormes lacunes défensives. Puis là, ce genre de défenseur-là, tu l'amènes dans la LNH, ça peut faire la même chose. Là, les partisans vont être sur son dos, vont dire « Sortez-moi ça de la formation. » Ça met de la pression. Tandis que si tu le choisis davantage au 2e ou au 3e tour, ce joueur-là, là, OK, on a pris une chance. Deux ou troisième tour, là, la probabilité de voir des joueurs qui jouent dans la LNH est moindre. Donc, on peut plus se le permettre de pas gaspiller, mais prendre un choix de troisième tour, par exemple. Puis là, si ça fonctionne, ben on a réussi un superbe coup. T'sais.
Ouais.
Exact. On parle de joueurs qui sont peut-être à risque d'arriver dans la Ligue nationale. Joshua Roy, moi, je m'attends à ce que ça devienne un joueur de la Ligue nationale, un bon joueur de troisième trio. Il avait quand même fait parler de lui cette année lorsqu'il avait exigé une transaction. On s'en souvient, là, passer de St. John's à Sherbrooke parce qu'il voulait se rapprocher de sa famille en raison de la COVID.
Je trouve que c'est légitime, là, un Québécois dans les Maritimes, il avait la COVID-19. C'est pas je trouve, une insulte à son caractère. Là.
Non, c'est clair. Personnellement, je pense pas non plus. Je ne sais pas si tous les recruteurs pensent de la même façon qu'à son année de repêchage exige une transaction. Je pense que chez certains, ça peut lever des flags. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais c'est un bon travaillant. C'est quelqu'un qui est acharné sur la rondelle, qui sert bien de son corps. C'est pas la personne la plus imposante. Mais il fait quand même 6 pieds, là. Mais il sert bien de son corps pour ramener la rondelle dans les zones dangereuses. Puis moi, je pense que ça fait de lui un excellent joueur en devenir de troisième trio dans la Ligue nationale. Personnellement, j'y crois. Je pense que ça va être un bon joueur. Je m'attends pas nécessairement à ce qu'il sorte au premier tour, mais je pense que 45, peut-être, ça pourrait être un très bon choix là, pour une formation de la Ligue nationale, parce que lui devrait jouer dans la Ligue nationale. Est-ce que je me trompe?
Ben, moi, je suis pas le joueur, je suis pas le gars qui va te contredire ici, bien au contraire. Là. Moi, je suis Joshua Roy. Je suis peut-être une des personnes qui l'a le plus haut dans mes listes. Moi, je l'ai environ début deuxième tour. Là. Je l'ai en 31 puis 35 environ. Tu parlais, moi je pense à un excellent joueur de troisième trio. Là. Moi, honnêtement, je ne suis pas prêt à écarter le fait que c'est peut-être un joueur de top 6. Parce qu'il y a plus de sens d'hockey qu'on le pense. C'est pas un joueur nécessairement spectaculaire là, qui va faire des feintes à tout casser, qui va faire les top 10 de la semaine dans les bulletins sportifs. Là. Mais c'est un joueur qui fait les détails, qui comprend quand même bien le jeu. Tu sais, tu parlais de l'acharnement. Moi, je trouve qu'il travaille bien, mais ça ne fait pas l'unanimité. Tu regardes des analyses. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, son éthique de travail me déplaît. Je trouve qu'il travaille mal. Moi, je trouve que c'est le contraire. J'ai vu beaucoup de séquences où tu le vois revenir en repli défensif. Bon, c'est pas le plus acharné. C'est pas un Mannix Landry,
par exemple. C'est plus la constance que l'effort, peut-être.
Ouais, c'est ça. Peut-être aussi, là. Mais moi, j'ai vu plusieurs jeux sur des replis défensifs où il avait un bon bâton qui était quand même assez physique et puis créait des revirements, puis ça apportait de la transition par la suite. Moi, je trouve que, honnêtement, moi, ça me déçoit pas nécessairement son jeu défensif. Et l'autre chose, en série avec Sherbrooke, c'était contre les Saguenayens. Oui, les Saguenayens ont gagné en 3 parties, mais le Phoenix a donné davantage d'opposition qu'on s'attendait, et je trouve que Joshua Roy était un des joueurs qui a dicté le tempo. C'est un joueur qui était vraiment présent, qui a obtenu quand même plusieurs points. Puis je note un reportage de notre ami, là, que je salue d'ailleurs, Alexandre Gimbal, qui a fait une sorte d'accès de toute la journée avec l'entraîneur-chef Stéphane Julien. Puis, dans le reportage, tu vois qu'à un moment donné, Stéphane Julien parle avec Joshua Roy, puis considère l'idée de l'utiliser en désavantage numérique. Il dit, je pense qu'à Saint-Jean, tu n'as pas été utilisé. Non, pas tant que ça. Puis moi, je trouve qu'il y a tellement un bon sens du jeu que je trouve que c'est un bon sens. Puis je pense qu'à un moment donné, Stéphane Julien le dit, là, je pense dans un reportage de repêchage davantage. Là, mais je pense qu'il dit, là, Joshua Roy, c'est quelqu'un qui se présente dans les gros moments. Puis ça, moi, je reviens à ça. On parlait important. Du caractère tout à l'heure. Caractère, là, si tu te présentes dans les gros moments, moi, ça me fait monter un joueur de 10 ou 15 rangs dans une liste, personnellement.
Ben, écoute, Joshua Roy, sais-tu quoi? J'apprécie les arguments que tu as apportés, Marty. Là, tu le mets de 31-35. Moi, sais-tu quoi? La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que c'est exactement le genre de joueur que le Lightning repêcherait, ça. Joshua Roy. C'est exactement le genre de joueur qu'ils ont dans leur formation. T'sais. Un gars qui peut jouer autant sur leur deuxième, troisième, quatrième, premier trio, peut jouer partout dans ton line-up. Pas le plus talentueux, mais trouve un moyen. Ben, il est talentueux, mais c'est pas juste avec ses skills qu'il va trouver le moyen de se rendre utile. En tout cas, c'est exactement un joueur dans le moule du Lightning, je trouve.
Ouais, c'est pas fou, puis comme on vient de dire, c'est pas un joueur spectaculaire. Ça se peut qu'il existe. Honnêtement, là, malheureusement, c'est que le pauvre Lightning de Tampa Bay n'a plus son choix de deuxième tour. Je sais pas c'est quelle équipe qu'il l'a. Ah, c'est les Canadiens de Montréal.
Ah!
C'était intéressant. Cool.
Mais c'est ça, je ne suis pas un joueur nécessairement que si j'étais le Canadien, je repêcherais avec le 30 ou 30e, 31e choix. Mm-hmm. Parce que d'après moi, il va avoir des joueurs avec un potentiel plus élevé qui seront disponibles. Alors que c'est rien contre Joshua Roy, c'est juste que je pense qu'il va avoir des meilleures options. Là. Mm-hmm.
Oh, pas à 30, là, mais deuxième tour, je pense que ça devient un très... Honnêtement, je pense qu'il peut sortir deuxième tour. Je regarde les listes, là, puis il y a des gens qui l'adorent. Scott Wheeler, je pense qu'il l'a dans son premier tour. Mais tu as des gens qui le classent dans les entours de 90. Je sais que la centrale ne l'aime pas beaucoup, il est très loin. Mm-hmm. Mais supposons qu'il y a 10 équipes qui l'adorent, ben, il y en a une qui va faire OK, je vais prendre une chance au deuxième tour.
Mais clairement, il y a d'autres Québécois qui passent avant lui, là, Zachary Lheureux, par exemple. Je suis même curieux d'avoir votre avis. Est-ce que Robida passe avant Joshua Roy dans vos listes? Là?
Moi, j'aime mieux Roy que Robida, personnellement. Okay.
Ben, moi, j'aime mieux Lheureux que Roy, mais j'aime mieux Roy que Robida. Cependant. Okay. Tu sais, tu me dis, je pense que Lheureux va sortir devant Roy. Je suis pas certain, moi. Je commence à voir dans les listes, là, Lheureux descend de plus en plus. Je vois beaucoup de gens qui se questionnent sur son attitude, sur son caractère. Tout le monde dit, c'est un... Tu sais, Kevin Dubé nous en a parlé la semaine dernière, là. C'est un Brad Marchand. Est-ce que tu repêches Brad Marchand au premier tour?
Mais c'est à cause de ses suspensions, à cause de ses coups douteux.
Ce que Marky avançait. Est-ce que tu repêches Brad Marchand au premier tour aujourd'hui? C'est évident que la réponse, c'est oui.
Ouais.
Mais est-ce que tu prends la chance sur un joueur qui a un caractère similaire au niveau junior, tu t'attends à ce qu'il devienne Brad Marchand? Ouais. Là, c'est plus difficile.
Puis tu sais, Brad Marchand, je pense que c'était la même chose. Je l'ai vu jouer plusieurs fois au niveau junior, là, c'était la même chose. On se questionnait sur son attitude, son caractère. Il avait été échangé aux Foreurs de Val-d'Or, avait d'abord refusé de se présenter avec les Foreurs parce qu'il ne voulait pas jouer en Abitibi, tout simplement. Puis à un moment là, finalement, il avait changé d'idée. Puis il y a un autre exemple, à un moment donné, c'était une défaite de 6-1 des Foreurs. Brad Marchand avait marqué le seul but, puis il était allé dire dans les médias qu'il était super content d'avoir marqué, mais c'était une défaite de 6-1. Donc, ouais. Ça apportait plusieurs bémols, tu sais. Mais finalement, on a vu qu'est-ce que ça a donné. C'est super bien développé, puis c'est devenu une vedette dans la LNH. Là, ça reste à voir. Est-ce que tu veux prendre une chance de dire on va... Ce que je pense qui va arriver avec Zachary Lheureux, c'est que je pense que c'est pas toutes les équipes qui peuvent le choisir.
Mm-hmm.
Je m'explique. Je pense que les Canadiens de Montréal, exemple, eux, ils ont plusieurs vétérans, des Corey Perry, des Shea Weber. Si un Zachary Lheureux débarque, puis avec son attitude, ben là, peut-être que les vétérans vont faire hey, le kid, corrige tel truc. Gars, on en a vu bien plus que toi. Puis là, à un moment donné, il va comme apprendre avec de bons leaders. Mais s'il débarque dans une équipe où il y a peut-être un peu moins de leadership, là, comme je ne veux pas manquer de respect à cette équipe-là, mais supposons qu'il débarquait à Buffalo, là, ce serait. Tu sais, je les sors de Buffalo, je ne suis pas certain que je vais avec un Zachary Lheureux.
Ouais, mais vois-tu, Lheureux, il y a une partie de ça que c'est de l'orgueil, de la fougue. Et ça, je suis capable de vivre avec ça, par contre, dans une équipe, parce que le gars care. Le gars veut bien paraître, mais des fois, oui, ça sort un peu tout croche, mais j'aime bien mieux quelqu'un qui a un orgueil, qui a de la fougue, qui veut prouver aux gens qu'il est le meilleur que ben, un gars qui est plus blasé, qui est plus laid back, puis à la limite, s'en fout un peu. Là.
Non, ça c'est sûr, mais honnêtement, je reviens à ce que tu viens de dire, Marty. Moi, je serais très surpris qu'il sorte avec Montréal, parce que dans les dernières années, des gars comme Nathan Beaulieu, des gars comme Alex Galchenyuk, des gars comme Max Domi, des gars comme Zach Cashin, c'est tous des joueurs qu'on a tenté de mettre un peu de côté parce qu'on cherche un type de joueur, une mentalité de joueur qu'on retrouve plus à la Shea Weber, à la Carey Price. Je pense pas que l'organisation du Canadien va vouloir se lancer avec un Zachary Lheureux.
On veut le gars propre là, des rocheuses. Là. C'est
exact.
Pas mal.
C'est ça la réalité du Canadien. Puis encore plus, il est Québécois, donc encore plus de spotlight sur lui. Moi, je serais honnêtement très surpris que Lheureux sorte avec le Canadien. C'est sûr que s'il est encore disponible, choix de troisième tour, on s'entend, là. Mais je serais surpris là, que le Canadien le ramasse. Là. En fait, je suis pas mal sûr qu'il va sortir avant le Canadien son choix de deuxième tour. Lui aussi, il va sortir dans le bout de 35, je pense. Moi, je pense qu'il sortira pas premier tour, comme bien les experts le voient. Là. Moi, je m'attends à ce qu'il glisse début deuxième. Puis je pense que le Canadien, après qu'il ait fait sa sélection, là, Lheureux va sortir quelques temps plus tard.
Moi, je pense que, malgré ce que je viens de dire, là, je pense que je le vois fin de premier tour. Parce que je suis d'accord avec Nick. Là, moi, c'est la même chose pour Lheureux. Là. Moi, je me dis, sais-tu quoi? Il y a le caractère, il se présente. Il y a des mains incroyables. C'est lui qui a les meilleures mains dans la GMQ. Là. Constamment au filet. Puis il y a les statistiques pour prouver qu'il est capable de produire, même à son année de 16 ans lorsqu'il était à Moncton. produisait. Moi, je me dis, t'es bien mieux de le ralentir un peu puis de l'encadrer avec de bons leaders que d'avoir un joueur que tu dois pousser puis qui a peut-être moins de talent offensif. Donc, moi, je pense qu'une équipe dans les alentours de 26-27, surtout dans un repêchage qu'on qualifie de où il y a peut-être moins de joueurs de talent, si tu veux, ben, t'es peut-être mieux de dire, OK, je prends un pari sur ce joueur-là, puis si on l'encadre super bien, écoute, ça peut devenir justement un Brad Marchand puis un joueur qui va être extraordinaire pour notre équipe.
Un agitateur avec des habiletés, là, ça devient de plus en plus une denrée rare dans la LNH. Là. Il veut pas. Corey Perry, c'en est un peu un. Là. Je veux dire, c'était un des joueurs les plus détestés de la LNH pendant des années. Là, là je pense que les Montréalais le détestent moins, mais Corey Perry, c'était ça. Il a bien canalisé ça, lui, je trouve. Moi, je miserais là-dessus, honnêtement.
Mais c'est le classique, c'est un joueur que tu détestes quand il n'est pas dans ton équipe. Mais tu
ben voilà, moi j'en prendrais dans mon équipe des joueurs de même, bien honnêtement.
Mais moi ce qui me fait
J'ai hâte de voir honnêtement. Moi je m'attends à ce qu'il glisse, mais vous amenez des bons points là. C'est juste que
c'est parce qu'une comparaison moi que je peux faire, c'est l'an dernier, il y avait un joueur à peu près du même moule qui s'appelle Riley Greig. Puis on ne questionnait pas nécessairement son attitude là, mais c'était le même genre de joueur. Un joueur qui était qualifié de Brad Marchand, un joueur qui était quand même talentueux, potentiel top 6. Même chose, il y a des joueurs. Puis lui, c'était pire, là. Il y a du monde qui le plaçait. Moi, je le plaçais au premier tour. Il y en a d'autres qui le plaçaient davantage deux, voire même troisième tour. Puis qu'est-ce qui est arrivé finalement? Les Sénateurs d'Ottawa ont adoré ce qu'ils ont vu, eux, puis ils l'ont sélectionné fin de premier tour avec un de leurs choix de premier tour. T'sais.
Ouais, mais la différence avec les Sénateurs, là, j'amène un bémol, c'est que les Sénateurs détenaient plusieurs choix de premier tour. Là, c'est pas pareil. Tu peux te permettre de gaspiller, entre guillemets, prendre une chance sur un joueur au fin de premier tour quand tu as déjà repêché à deux reprises au début du repêchage. Quand c'est ton seul choix au fin de premier tour, la game est complètement différente.
Comme Dezo a dit, ça mitige le risque. Mais là où je veux aller, c'est qu'il faut faire attention quand on juge du caractère d'un kid de 17 ans. C'est quand même dangereux. Là. Je veux dire, ça reste un kid. C'est pas tout le monde qui mature à la même vitesse. Moi, j'ai un peu un malaise dans ce temps-là. Oui, ça doit avoir une place importante dans ton évaluation, mais je me rappelle, le Phil Kessel, on l'avait quasiment fait pleurer dans la période des entrevues parce qu'on n'arrêtait pas de dire à quel point il était socially awkward puis il était un peu bizarre. Puis, je veux dire, faut juste faire attention. Tu as différents types de personnalités aussi dans la vie. C'est pas tout le monde qui est fait sur le même moule. Alors, je pense qu'il faut respecter ça aussi.
Ah, mais ça fait simplement. Ça fait simplement partie de l'analyse.
Ça, c'est clair. Mais ça peut évoluer rapidement. C'est juste ça que je veux dire.
Bien encadré, ça peut faire une différence. Là, ça. Ouais. On s'entend. Puis on passe d'un joueur qui a énormément de caractère à un joueur que j'adore son éthique de travail. C'est Zach Dean avec Gatineau. C'est pas le joueur qui a le plus haut plafond. Il n'a pas un potentiel incroyable, mais je le trouve bon dans pas mal tout ce qu'il fait. Et c'est un travailleur qui n'arrête pas. Autant quand il a la rondelle que quand il n'a pas la rondelle. Le gars, je le trouve efficace partout. Je trouve que c'est un bon choix de fin de deuxième tour. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je suis dans le champ? Moi, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup. S'il peut glisser au choix de deuxième tour du Canadien, moi, j'adorerais ça.
Mais moi, j'ai pas entendu un homme de hockey dire quelque chose de négatif sur Zach Dean. Encore là, c'est une question de plafond, puis ça va dépendre des équipes. Il y en a qui vont vouloir prendre plus de risques à ce moment-là. Il y en a qui vont vouloir arrêter leur choix sur un gars qui a plus de chances d'atteindre la LNH. Je pense vraiment que ça va dépendre de la préférence et des critères d'évaluation des équipes.
Moi, malheureusement, le problème avec les choix des Canadiens, c'est qu'ils ont les deux derniers choix du deuxième tour. C'est un peu ça le problème. Je suis pas certain que Zach Dean va être encore là. Dans les alentours de 60 et 61. Parce que, comme tu l'as dit, il est super bon partout. Lorsque tu parles de jeux spectaculaires, il est capable de faire des jeux spectaculaires. Il a d'excellentes mains. C'est un gars qui est capable de garder la rondelle longtemps. Capable de faire des jeux extraordinaires.
Il fait penser un peu à Mercer, mais Mercer avait plus de talent. Tu sais. C'est un peu le profil semblable dans le sens que tu sais, l'espèce de joueur parfait de la QV. Là.
Ouais, je pense que Mercer a un meilleur sens du jeu.
Exact.
Là.
Mercer est une coche au-dessus. Aussi, Mercer est une coche au-dessus, mais plus dans le profil de le gars parfait là, qui a tout pour lui. Tu sais, le rêve d'un coach, du caractère, toutes les qualités, un bon kid.
Ce qui est intéressant en plus dans le cas de Zach Dean, là, tu parlais de Mercer versus Zach Dean, mais c'est des joueurs, je pense, de la même région, un peu de Terre-Neuve. Bon, il est né en Alberta, là, Zach Dean, ouais, mais c'est un joueur qui s'est développé à Terre-Neuve. C'est drôle parce que là, tu me sors cette comparaison-là, mais c'est des gars qui ont un peu été développés dans le même moule, si tu veux. Là.
Oh, oui. Mm-hmm. Fait que ça les rend très humbles à ce moment-là, tu sais, je veux dire.
Mm-hmm. Mais je suis d'accord, Marky, que c'est vrai que le Canadien a deux choix tardifs, là, les deux derniers choix de la deuxième ronde. Cependant, le Canadien a deux choix de 2, deux choix de 3, trois choix de 4, et après ça, un choix dans les rondes 1, 5, 6 et 7. Moi, je pense que le Canadien ne voudra pas nécessairement repêcher tous ces choix-là au repêchage. Habituellement, Marc Bergevin a plus tendance à reculer qu'à s'avancer, mais compte tenu que là, le cycle de développement de l'organisation change, qu'on est plus dans le maintenant, je serais pas surpris, moi, que le Canadien décide de bouger pour repêcher un peu plus haut en deuxième ronde, compte tenu de la controverse qu'il y a eu, notamment avec les Québécois un peu plus tôt là, au courant de la saison. Je pense que ça va des facteurs. Oui, peut-être que Dean ne sera plus là à 62-63. Ça devrait être dans ce bout-là, là, avec le choix des Coyotes qui revient. Puis, en tout cas. Mais ça reste que je serais pas surpris, moi, que le Canadien tente d'acquérir choix dans le bout de 50. Moi, je pense que
cette année-là, c'est presque impossible que CH repêche pas au moins un Québécois dans les cinq premières rondes. Tu sais, la critique qui revenait souvent, c'est que, OK, oui, ça vous arrive de repêcher des Québécois, mais c'est souvent en toute fin de repêchage pour sauver la face un peu. Exact. Mais à combien de fois on voyait le Canadien s'avancer pour en repêcher un dans les 3, 4, 5 premières rondes? Ben, très peu souvent, sinon jamais. Mais je pense que cette année, honnêtement, avec ce qui s'est passé avec la COVID, la visibilité que la LHJMQ a eue, tous les as sont alignés. C'est impossible qu'il n'y ait pas un Québécois qui est sélectionné, honnêtement, dans les 5 premières rondes là, par le Canadien.
Mais comme tu dis, tu sais, l'année, non seulement l'année de la LHJMQ, là, c'est la ligue qui, au Canada qui a disputé le plus de rencontres, qui a eu le plus une saison normale, si tu veux. Mais en plus, cette année, c'est une bonne cuvée pour la LHMQ. C'est une bonne année, surtout pour les espoirs, justement, de 2, 3 ou 4e tour. Moi, je regarde mes listes, là, les joueurs de la LHMQ, puis il y en a énormément qui sont classés dans ces environs-là. Donc, je verrais mal le Canadien arriver au 3e ou 4e tour, puis lever le nez sur un joueur comme James Malatesta, par exemple, qui peut t'apporter de quoi de super bien pour un jeu de 3e tour. Ou un Cameron Wynott, par exemple, ou des joueurs comme ça. Il y en a sans plus cette année. Donc, c'est sûr que ça paraîtrait un peu mal si les Canadiens levaient le nez sur un joueur de la LHMQ.
Absolument.
Messieurs, merci beaucoup pour un autre beau podcast de la relève. Honnêtement, ça s'en vient rapidement, le repêchage, dans une vingtaine de jours. Je ne tiens plus en place. J'ai hâte que ça se passe, mais d'ici là, vous pourrez toujours consulter les matchs du Canadien de Montréal qui sera à nouveau en action demain soir, mercredi, face au Lightning. Est-ce que le Canadien survit à nouveau à Tampa Bay ou ça va être difficile de...
J'ai envie de dire qu'il va avoir, un sixième match.
Oh, il y aura un sixième match.
Je pense qu'on aura un sixième match aussi. J'ai l'impression que, je sais pas, on parle trop de party à Tampa Bay. Là, j'ai l'impression que ça va peut-être être gâché tout ça, mais bon.
Mais je partage pas votre optimisme. Je pense que ça va être difficile parce que si je parle autruche hier, le Canadien a été dominé dans la partie, là, outre les 10 minutes peut-être en deuxième période. Là, sinon, ça a été surtout le début de la rencontre. Là, c'était all over the place pour Tampa Bay. J'espère que le Canadien sera en mesure de forcer la tenue d'un sixième match. On aura la réponse demain soir, mais d'ici là, continuez à nous suivre, continuez à regarder notre page Facebook et allez regarder les profils de prospects. On a beaucoup de plaisir à vous suivre ça pour vous. Alors, on se dit